Vous l'avez compris, frères et sœurs, ce deuxième dimanche de l'Avent se place sous le signe de Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui prépare le chemin du Seigneur. Il est le petit enfant célébré chaque matin pour ceux qui chantent les laudes dans le Benedictus. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Il est aujourd'hui le précurseur de Jésus, celui qui reprend dans le désert les paroles du prophète Isaïe, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. J'en reste, frères et sœurs, sur ces dernières paroles, car, je dois le dire, l'évocation de ces grands travaux annoncés par Jean-Baptiste touche mon cœur de Suisse ou même de Valaisan. Vous le savez peut-être, les Suisses sont champions, pas seulement pour la consommation de chocolat, ils sont aussi, suivant les années, champions du monde ou champions d'Europe pour le nombre de kilomètres parcourus en train et en transport public. Position consolidée par les tunnels de base du Saint-Gothard, du Lötschberg, du Chêneri et d'autres qui sont encore en construction ou en projet. Sans compter les trains à crémaillère, les funiculaires, les bateaux, les téléphériques et les télésièges qui font de la Suisse, disent certains, un paradis pour les touristes et pour les randonneurs qui s'en vont le matin en sachant qu'ils auront généralement le soir ou qu'ils arrivent un train ou un bus pour rentrer dormir chez eux. En considérant ces grands travaux, on pourra se dire « c'est magnifique ». C'est encore mieux que la prophétie d'Isaïe, puisque grâce au tunnel et au pont, nous n'avons pas même besoin de combler les vallées ou d'abaisser les montagnes, juste de les creuser et de les raboter à certains endroits. Parole bénie aussi, j'imagine, pour les ingénieurs et les automobilistes qui rêvent encore de supprimer les contours malvenus et de raccourcir les distances par tous les travaux que la technique rend possible aujourd'hui. Mais est-ce bien le programme que Jean-Baptiste, à la suite d'Isaïe, nous propose en ce temps de l'Avent? On a de sérieuses raisons d'en douter. Magnifique de pouvoir se déplacer si facilement et de se rendre pas seulement de l'autre côté de la Suisse, mais de l'autre côté du globe, pour se dépayser, pour rencontrer d'autres cultures, d'autres gens. Mais la rencontre de l'étranger aux antipodes ne serait-elle pas une façon d'éviter la rencontre de l'étranger tout proche? Magnifique de faire venir des pommes de Nouvelle-Zélande, des ordinateurs de Chine, des médicaments de l'Inde, mais les avantages sont-ils toujours à la hauteur des effets secondaires sur les hommes et sur la nature? La multiplication des déplacements n'a-t-elle pas amené chez nous des animaux un peu étrangers comme le frelon asiatique ou bien des plantes comme l'ambroisie ou la berce du Caucase ou bien encore la tortue de Floride ou le moustique tigre, sans oublier ce virus venu de la Chine qui continue de nous inquiéter? Et pour revenir à notre pays, cet idéal de route bien droite et rapide, est-ce qu'il n'est pas remis en cause par les chicanes ou les gendarmes qu'on ajoute sur les routes secondaires ou par la limitation à 30 km qui commence à s'étendre en ville pour obliger les voitures à circuler plus lentement et puis peut-être aussi à prendre du temps tout simplement? Et peut-on imaginer la Suisse comme un grand plateau avec les ravins comblés et les montagnes abaissées, ces montagnes qui, justement, élèvent nos regards vers les hauteurs du ciel, ces montagnes qui nous obligent à prendre du temps au lieu d'avoir tout, tout de suite. Et j'apprécie d'ailleurs que la Bible évoque à la fin des temps, on l'a entendu dans la deuxième lecture, un ciel nouveau et une terre nouvelle, en ajoutant souvent qu'il n'y aura plus de mer, mais jamais, sauf erreur, et ne dit qu'il n'y aura plus de montagne. Alors plutôt que de prendre au pied de la lettre les paroles d'Isaïe, reprises par Jean-Baptiste, demandons-nous de quoi Isaïe parle quand il parle du chemin à préparer. Il y a d'abord le chemin à faire de notre côté pour rencontrer le Seigneur qui vient dans notre fâcheuse tendance à vouloir tout, tout de suite, à circuler rapidement pour arriver au but. Nous oublions qu'il y a souvent autant, voire plus de bonheur à cheminer qu'à parvenir au but. Plus de bonheur à prendre le temps de découvrir des paysages et des maisons, de rencontrer des personnes et de recevoir leur hospitalité. Le succès du chemin de Saint-Jacques de Compostelle ou de la Via Francigena, par exemple, tient à ce qu'il peut nous faire découvrir que le Christ n'est pas simplement au bout du chemin, mais qu'il est déjà le compagnon de route, qu'il est le chemin. Nous cherchons aussi la terre promise, bien sûr, mais l'intimité de Dieu, nous la vivons déjà dans le désert, ou partout où nos regards et nos oreilles peuvent se libérer du déferlement des images et des bruits qui nous assaillent et retrouver l'attention et l'humilité nécessaires pour reconnaître et accueillir l'enfant qui vient dans le silence et la nuit de Noël. J'ai parlé du chemin à faire de notre côté, mais il y a aussi, peut-être encore d'abord, le chemin que le Seigneur fait pour nous rejoindre là où nous sommes. Et c'est certainement là d'abord que les plus grands travaux nous sont demandés. Ces travaux nécessaires pour rétablir et développer les communications qui vont en nous, du cœur à la tête et de la tête aux mains. Ces travaux qui nous rendent capables de voir et d'entendre venir, de recevoir dignement celui qui est le Verbe fait chair et qui fait, lui, l'essentiel du chemin. Dans les grands travaux annoncés par Isaïe, il est significatif qu'on parle du chemin du Seigneur, d'une route pour notre Dieu. C'est Dieu qui vient nous rejoindre, mais pour l'accueillir, il faut lui faire de la place. Cela, Jean-Baptiste nous le dit à sa façon originale. Lui qui se nourrit de sauterelles et de miel sauvage, il fait partie de ces excentriques que Dieu nous envoie pour nous recentrer sur l'essentiel, pour nous dire que Dieu vient nous rejoindre non pas ailleurs, dans un pays lointain, mais dans notre vie quotidienne, là où nous sommes, engagés que nous sommes avec le poids de notre humanité. Il vient nous rappeler ce qu'on pourrait appeler l'urgence de l'essentiel. S'il est vrai qu'à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgent, l'homme d'aujourd'hui finit par oublier l'urgence de l'essentiel. La figure de Jean-Baptiste, excentrique, qui nous recentre sur l'essentiel, nous rend attentifs à bien accueillir celles et ceux qui se présentent à nous comme des excentriques, y compris parmi nos proches. Sans doute que Dieu nous les envoie aussi en précurseur, comme il a envoyé Jean-Baptiste, mangeur de sauterelles, pour nous libérer de notre tendance à vouloir tout, tout de suite. Mais surtout, et ce sera ma conclusion, le message de Jean-Baptiste rejoint l'appel à la vigilance sur lequel s'ouvrait l'Avent dimanche passé. Veillez, c'est savoir attendre prendre du temps, le temps de donner et de recevoir, le temps de désirer. C'est utile de le rappeler dans une époque où, disent certains, l'on ne sait plus attendre, où l'on veut même éliminer du désir l'attente. Prendre du temps, c'est d'ailleurs se mettre au rythme du Seigneur qui vient, se mettre à son école. Lui prend patience envers nous, nous dit saint Pierre dans la deuxième lecture qu'on vient d'entendre. Il nous donne le temps d'attendre, de désirer, de nous convertir et de dire « Me voici, Seigneur ». Lui ne demande pas tout, il demande davantage notre présence, notre disponibilité. Il ne donne pas tout, il donne davantage sa présence. Dans la personne de Jésus, au soir de Noël, qui a dit « Voici, je viens » et qui est venu et qui vient.